Sank.
É a maioria.
Rádio Alfa.
Bonjour à tous. L'Union européenne promet d'aller plus vite pour autoriser les vaccins contre les variants du coronavirus. La commissaire à la santé a déclaré aujourd'hui qu'il y aurait moins d'étapes d'autorisation pour les vaccins améliorés. L'Union avait été accusée de lenteur dans sa gestion de la campagne de vaccination. En France, le nombre de nouvelles contaminations reste stable avec 21 000 nouvelles contaminations en 24 heures d'après Santé publique France et 199 décès supplémentaires. En une semaine, 10 000 nouveaux patients ont été admis à l'hôpital. À Paris, le trafic des bus de la RATP devrait être perturbé demain. Les machinistes vont faire grève pour protester contre le retour de la vente des tickets à bord des bus. La pratique avait été suspendue lors du début de la crise sanitaire. Les chauffeurs estiment qu'ils encourent des risques en pleine crise sanitaire, d'autant que le plexiglas de protection entre eux et les passagers va être retiré. La démocratie est fragile. Les mots du président américain Joe Biden, quelques heures après l'acquittement de son prédécesseur Donald Trump. Ce dernier était jugé hier lors de son second procès en destitution pour incitation à l'insurrection. Deux tiers des sénateurs l'ont reconnu non coupable. Joe Biden a rappelé que le fond de l'accusation n'était pas contesté et que la démocratie devait toujours être défendue. À Dublin, le 15 de France s'échauffe quelques heures avant son match face à l'Irlande pour le tournoi des Six Nations. Les Bleus n'ont plus gagné en Irlande depuis 2011, mais ils sont en confiance après leur large victoire à la semaine dernière 50-10 face à l'Italie. Le coup d'envoi du match est à 16h. Le tennis avec les huitièmes de finale de l'Open d'Australie en ce moment. L'Autrichien Dominic Thiem a été sorti par Grigor Dimitrov. Novak Djokovic est en ce moment sur les courts. Il affronte Milos Raonic. Et chez les femmes, Serena Williams, Simona Halep et Naomi Osaka se sont qualifiées ce matin pour les quarts de finale. Et 13 départements toujours en vigilance grand froid dans le nord-est. La vigilance est étendue de Lyon jusqu'en Alsace, le département de la Charente-Maritime, lui, est toujours en vigilance orange pour crue. Bonne journée.
Tout savoir sur l'arrêt du tabac avec Tabac Info Service. Damien, bonjour.
Bonjour.
Alors, après 18 ans de tabagisme, vous avez décidé d'arrêter de fumer. Pourquoi maintenant ?
Bien, pendant le premier confinement, j'ai moins fumé parce que je ne fume pas chez moi, parce que je retrouvais pas mes amis. Et puis, bien sûr, avec le télétravail, plus de pause clope avec les collègues.
Et oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis ?
En fait, je me suis senti tellement mieux en fumant moins que j'ai décidé qu'il fallait que j'arrête. Et puis, je voulais en finir avec la dépendance, je voulais faire quelque chose pour ma santé. Ouais. Et puis, surtout, vivre quelque chose de positif en cette période difficile. Alors, je me suis dit, allez, Damien, c'est le bon moment, là.
Alors, justement, Damien, c'est pas trop dur en ce moment ?
Mon médecin m'aide beaucoup. On fait le point régulièrement. Et puis, j'ai aussi téléchargé de l'application Tabac Info Service, où il y a des conseils qui m'aident. Mm-hmm. Comme, par exemple, remplacer la pause café-clope par une pause thé. C'est possible. Et puis, jusque-là, ça va, je fume de moins en moins. Et bientôt, adieu la cigarette.
Écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Damien, et bonne continuation.
Merci.
La première fois que je t'ai vu, ça a été comme une évidence pour moi. Ton rire, ton regard, t'avais tout pour me faire craquer.
Et du coup, après ce premier tête-à-tête vidéo, on s'est tout de suite donné rendez-vous dans un café.
Et c'est seulement en arrivant qu'on a raccroché.
Et si on se découvrait en vidéo avant de se rencontrer en vrai ? Téléchargez Mythique et rencontrez des célibataires prêts à s'engager.
Mythique. Carrefour. Bonne Saint-Valentin qui fait. Ou bien... Et même... On est heureux d'entendre que, jusqu'à ce soir, chez Carrefour et Carrefour Market, le bouquet passion de 7 magnifiques roses rouges, gros boutons et grandes tiges est à 7,90€ seulement. C'est ça, être partenaire de votre budget et de vos amours. Carrefour.
Détails produits sur carrefour.fr.
La paire. Pour Tom, ce qui compte dans une salle de bain, c'est d'être prêt en 10 secondes. Mais pour Jeanne, c'est de pouvoir y prendre son temps. Ce qui compte, c'est d'être bien chez soi. Et pour ça, vous pouvez compter sur nous. Jusqu'au 22 février chez La Paire, profitez de moins 20% sur une sélection de meubles de salle de bain. La Paire, la qualité réservée à tous. Conditions sur lapaire.fr.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron.
Alors, bonne pêche.
Pas pour nous, hein. Dès demain chez Lidl, ils font les filets de Limande du Nord MSC façon meunière à 4,29€ les 400 grammes, soit moins 18%.
Des filets de Limande à 4,29€.
Eh ben oui.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 10,73€ le kilo, produit transformé en France. Offre valable jusqu'au mardi 23 février. Nos supermarchés sont livrés quotidiennement et vous accueillent en toute sécurité jusqu'à 18h. Profitez des heures creuses pour faire vos courses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, limiter les aliments gras, salés et sucrés.
Besoin d'une location d'appartement ? Avez-vous pensé à la location meublée ? Simplifiez-vous la vie et venez simplement avec votre valise. Nous vous proposons de mettre à votre disposition tout le nécessaire pour la location de votre futur appartement, du mobilier, l'électroménager, à la vaisselle de maison, en passant par la télé à écran plat, tout est compris. Profitez d'une situation exceptionnelle au pied du lac de Créteil, à proximité de commerce et du métro ligne 8. Contactez la société MGI, le professionnel de la location meublée, au 01 45 10 15 03. MGI, une autre vision de la location.
Carrefour, le matin, que vous soyez plutôt jus d'orange ou smoothie, thé ou café, oh, jolie tasse. Commencez la journée du bon pied chez Carrefour et Carrefour Market. Et oui, jusqu'au 2 mai, collectionnez des vignettes avec votre carte Carrefour et découvrez une sélection d'appareils Tefal pour le petit déjeuner à 5 euros seulement. Nos magasins restent ouverts et vous accueillent en toute sécurité. Carrefour.
Offre avec obligation d'achat, une vignette tous les 10 euros d'achat ou pour l'achat d'un produit de marque partenaire. Modalité sur carrefour.fr.
Radio Alpha.
Domingo às 14h25 e quarta às 9h30 da manhã, esteja atento ao programa O Livro da Semana com o apoio da Biblioteca Gulbenkian. 7P, Boulevard Jourdan, em Paris 14, na Cité Universitaire, entrada sob marcação.
Le plan de relance, qu'est-ce que c'est ?
Le plan de relance, c'est 100 milliards d'euros pour créer de l'emploi et développer les compétences.
D'accord, mais ça veut dire quoi concrètement ?
C'est très concret justement, vous allez voir. C'est par exemple un service d'aide aux petites entreprises qui veulent se digitaliser pour toucher de nouveaux clients et développer leur business. C'est aussi des aides pour que l'industrie innove et modernise ses productions ou investisse dans des secteurs stratégiques pour la France.
Et pour les particuliers ? Qu'est-ce que ça change ?
Ça dépend de votre situation. Vous pouvez par exemple vous former à un métier qui recrute dans votre région ou placer un peu de votre épargne dans un fonds qui soutient les entreprises créatrices d'emplois en France. Particuliers, entreprises, collectivités locales, découvrez toutes les mesures dont vous pouvez bénéficier sur plandederelance.gouv.fr. Ceci est un message du gouvernement.
Passagem de nível. Artur Silva.
Muito boa tarde, cá estamos nós neste domingo, dia 14 de fevereiro, São Valentim. Aproveitem que eu já comprei a minha prenda. Mas enfim, bom, deixem-me disso agora do lado dos temas que vamos abordar até às 13h30. O ensino de português em França, já fizemos emissões sobre esta questão, estão abertas as inscrições nas secções internacionais portuguesas. O destaque hoje vai para o Liceu Internacional Saint Germain-en-Laye. Foi aí que nasceu a primeira secção internacional de português aqui em França, em um liceu que tem a particularidade de abranger todos os graus de ensino, desde o pré-primário até o BAC, connosco o diretor desta secção portuguesa, José Carlos Janela. Depois iremos falar de um livro, Horizon, mais recente romance de António de Sousa, edição Mer du Sud, e connosco, igualmente, teremos via telefone, Manuel Nascimento, autor de vários livros, entre os quais La Révolution des Aïeux, o Portugal, cronologia d'un combat pacifique, edição L'Armatin, com efeito o fio condutor deste livro, é evidentemente o fascismo, é o 25 de Abril e tudo o que anda à volta e não só. Também é uma história de amor, ainda que contrariado, mas isto é outra questão. Com dois segredos que, evidentemente, não vamos divulgar, para isso terá que comprar o livro. E a partir das 13 horas, vamos falar de música. Música, uma homenagem ao compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos, pelo quinteto Le Concert Impromptu. Teremos a instrumentista e diretora artística do quinteto Violaine Dufesse. E Francisco Lacerda, com 36 histoires pour amuser les enfants d'un artiste, com o pianista e compositor Bruno Bertoise. José Carlos Janela, antes de mais, muito boa tarde.
Boa tarde, Artur Silva. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Alfa.
Ora, a última vez que falámos foi via telefone, mas nada melhor do que estarmos frente a frente como dia outro. É assim que nós nos entendemos melhor. Ora, quando se fala da secção internacional de Saint-Germain-en-Laye, temos que ir aqui, o dia 4 de abril de 1949, não é?
Sim, porque é o dia em que em Washington foi assinado o Tratado do Atlântico Norte, portanto foi criada a NATO. No ano a seguir, a França obteve a sede da NATO e a NATO tinha o seu quartel-general em Roquencourt, no departamento número 78, e a residência dos oficiais aliados era na cidade de Saint-Germain-en-Laye, onde foi construído aquilo que ainda hoje se chama Le Village d'Ennemont. E a partir daí punham-se dois problemas. Por um lado, que os filhos dos oficiais aliados, portanto, de todos os países, ou de um grande número dos países da NATO, tivessem escolaridade, fossem escolarizados, e por outro, em francês, com o programa francês, que é o programa comum a todos, as matemáticas, as línguas estrangeiras, a física ou química, por exemplo, e ao mesmo tempo que quando regressassem aos seus países, pudessem prosseguir os estudos. Daí a ideia generosa do general Eisenhower
de criar a École Chap,
de criar escola. Uma escola, o general Eisenhower e um almirante francês, Guillaume Le Bigot, de criar uma escola onde os jovens pudessem estudar também, não perdessem a sua individualidade isso nacional. Foi, é a escola do Shape.
Isso foi em 1952.
Em 52, sim, senhor.
Ora, entretanto, bom, há uma coisa, vou fazer uma citação. René Talleyrand afirmou, relativamente a esta escola, há que preparar estes jovens para ocupar o seu lugar num mundo que será diferente dos seus pais. Isto é uma espécie de expressão filosófica, não?
Era René Talleyrand, se me dá licença, Artur Silva, era só recordar que foi o primeiro diretor desta escola, a escola do Shape. Shape, podemos traduzir livremente este acrónimo por Quartel-General das Forças Aliadas na Europa. E mais, ele continuava ainda, René Talleyrand, dizia: esta filosofia, como dizia o Artur Silva, deve impregnar cada matéria ensinada na escola. E isso deve ser feito sem invadir o caráter nacional de cada aluno. Nenhuma democracia do futuro terá valor se os seus membros forem rigorosamente iguais. O nosso mundo não pode ser um mundo de robôs totalitários e de peões, todos idênticos, manipulados a bel prazer, segundo a vontade de déspotas. Portanto, este é o espírito também desta escola, é a abertura ao mundo, mas sem perder a própria identidade.
Mas José Cajanelis, para me lembrar o Gil Ferri, com a escola laica e isso tudo. E bom, universal.
Bom, portanto, eu não quero entrar...
Não, mas é evidente. Não, mas enfim, penso que a linha mestra é um bocadinho essa a fazer... De dar trunfos aos jovens, aos estudantes.
Precisamente, é que cada um mantenha a sua identidade, e é o que acontece ali, porque no momento em que estamos a falar, desde o início, portanto, 14 países estão representados, mais um, a França, 15, e em cada secção os jovens mantêm aquilo que caracteriza a sua cultura e o seu país de origem, embora estejam abertos a jovens de outros países, ou seja, há um estudo da língua, da literatura e da história de cada país, mas ao mesmo tempo uma abertura aos outros e a cultura no sentido de cultivar os valores que nos são comuns.
Aliás, as secções internacionais, e obrigado pela informação e os documentos que me enviaste, as secções internacionais constituem um dispositivo de ensino em que os alunos cumprem o programa de estudos da República Francesa, acrescido o ensino da língua e literatura e história do país, no que diz respeito a nós, é Portugal neste caso, e os jovens beneficiam também assim de um suplemento de 6 horas semanais, desde a Mayenne section até bom, e por aí fora, de maneira que...
Portanto, como estavas a dizer, Artur Silva, este programa implica alguma sobrecarga de trabalho para os estudantes, porque, como o Artur Silva estava a acabar de dizer, desde a moyenne section da maternelle até ao fim da troisième, os alunos têm mais 6 horas de aulas semanais. A partir da segunda
e
até
à
terminal são 8 horas. São 8 horas. Portanto, é uma sobrecarga de trabalho. É preciso muita motivação e muita capacidade de trabalho.
Bom, há que referir que este percurso também é sancionado pelo diploma Opção Internacional do Baccalauréat OIB. O que significa OIB?
OIB significa aquilo que acabas de dizer,
também,
Opção Internacional do Baccalauréat, mas, bom, este é o significado literal, porém significa mais do que isso. Significa, em termos práticos, que se um jovem, por exemplo, sai da secção portuguesa com este diploma e vai para o Brasil ou para Portugal ou para Timor, já tivemos jovens timorenses também, portanto está preparado para frequentar o ensino superior em qualquer país de expressão portuguesa. É um diploma que, bom, em termos administrativos podia ser, um dia as autoridades terão certamente que facilitar um pouco a parte administrativa, mas não vamos entrar agora nessa questão. Ora,
José Cajanel, muito importante.
Sim.
Les atouts de l'enseignement international. Bom, eu não tenho a folha completa, mas tu tens isso a tudo. Não. Eu acho que é importante, precisamente, falar desses trunfos das secções internacionais.
Portanto, este documento que está aqui, que tu infelizmente não recebeste na íntegra, portanto, é da própria proviseur atual, Madame France Bessis, portanto, que chama a atenção para o facto de que se trata de um verdadeiro ensino duplo. E de facto, um dos trunfos é este. Vou só falar, vou repetir um pouco, é que os jovens podem, uma vez feito o BAC de opção internacional, podem integrar tranquilamente o ensino nos países de origem. E temos exemplos concretos de alunos nossos que estão no Porto, em Coimbra, em Aveiro, e que em Lisboa, e que seguem os estudos com toda a tranquilidade. Em segundo lugar, são jovens que, um outro trunfo muito importante, são jovens que aprendem várias línguas, saem de lá com o francês, e no nosso caso o português, a um nível de língua materna. Para além disso, mais duas línguas estrangeiras, pelo menos.
O inglês é obrigatório.
E uma outra, pelo menos. E aproveitava para citar o Imperador Carlos V, que dizia: tantas línguas tu falas, tantos homens tu vales. E o terceiro trunfo é o espírito em que se vive, de os jovens estão imersos num ambiente internacional. São 15 países representados e têm depois oportunidade de participar em viagens de estudo, em visitas a museus, atividades teatrais a nível comum ou a nível de cada secção, atividades desportivas, concursos, concertos, portanto, toda uma série de atividades que vêm enriquecer aquilo que é propriamente o ensino escolar, e que são outros tantos trunfos do duplo ensino ou ensino internacional.
Ora, peço desculpa, mas enfim, é o direto. O importante também é o papel das associações de pais. Acho que é fundamental também.
É muito importante, e eu, portanto, no Liceu Internacional existe uma associação de caráter geral, a APLI, Association des Parents d'Élèves du Lycée International, e depois cada secção tem também a sua associação de pais. No caso da secção portuguesa é a APASPLI, Associação dos Pais de Alunos da Secção Portuguesa do Lycée International, e muitas destas atividades culturais e outras que eu acabei de referir, sem a ajuda dos pais, de muitos pais que generosamente dão o seu tempo, dão o seu esforço, alguns o seu saber, fazendo conferências, intervindo nas aulas, alguns que escrevem e que apresentam os seus livros, e outros que fazem coisas tão fundamentais. Estou a lembrar-me, por exemplo, de duas mães que vêm encadernar os livros da biblioteca. É importantíssimo, para além de tudo o que acabei de dizer anteriormente. E queria-lhes deixar aqui, a eles, um grande muito obrigado, assim como a colegas meus professores, que sem olharem ao esforço, sem olharem ao tempo que dedicam aos alunos, porque os apoiam, para além daquilo que é o seu horário normal, quero deixar a todos um grande muito obrigado, sabendo, todavia, que mais do que as minhas palavras é a consciência de cada um que lhes agradecerá.
Sim, sobretudo nesta situação de confinamento e não só, porque, bom, ensina à distância toda uma série de coisas e conheço professores, nomeadamente universitários, que chegam a passar 10 e 12 horas sentados em frente ao computador. Ora, Secções Internacionais é um ensino de excelência, mas não é um ensino para uma elite. E há outro ponto importante, e penso que isso está ligado também, é um ensino público e gratuito.
Portanto, no caso, só para sermos rigorosos...
Eu falo aqui na secção portuguesa.
Pois, no Liceu Internacional de Saint-Germain-en-Laye há algumas secções privadas. Mas não é o caso da nossa, nem de outras grandes secções, como, por exemplo, a secção alemã, a secção espanhola e a secção italiana. É um ensino público, a parte francesa é sempre ensino público, é a escola laica republicana de Júlio, historicamente,
de Júlio Ferri,
como tu dizias, Artur Silva. Uhum. E depois, no caso das secções públicas, repito, é o caso da nossa e de outras que acabei de referir, portanto, é gratuito. Portanto, é um ensino de excelência. É um ensino de elite, como dizia o provisor Joel Bianco, sem ser um ensino elitista, porque está aberto a todos. Se há uma elite que se cultiva, é a meritocracia, é a elite republicana, portanto...
Há um trabalho dos alunos e um trabalho da família, que é importantíssimo, de acompanhamento.
Daquele que tem ambições e é exigente consigo... E é a elite do trabalho.
Ora, há que referir que a secção internacional de Saint-Germain-en-Laye tem uma particularidade, é que abrange todos os graus de ensino. Isto é bastante importante, penso que é única, porque vai do pré-escolar até a terminar. E isso é importante também, os dois polos que existem em LEPEC. Portanto, há todo um acompanhamento, significa que uma criança, primeiro, vai desde o pré-escolar até... portanto, é todo um percurso, há um seguimento nisso tudo.
Sim, portanto, a partir da moyenne section, do pré-escolar, da école maternelle, a partir daí até à terminal. E funciona no sítio do Liceu Internacional, como dizias, Artur Silva, na escola Normandie Niemene, em LEPEC, e no colégio Pierre e Marie Curie, também em LEPEC. Sabendo ainda, gostava de chamar a atenção para duas particularidades, é que até ao fim do ensino primário, aquelas famílias que por variadas razões não podem trazer os seus filhos à escola todos os dias, podem vir apenas nos dias em que há aulas da secção e continuarem a frequentar a escola do setor. São os chamados alunos externe, ou externos, como nós dizemos, enquanto que outros têm toda a escolaridade ou no Liceu Internacional ou na Escola Normandie Niemene. Isto até ao fim do primário. Depois, toda a gente, a partir da sisiema, está sempre ou no colégio, chamado colégio que está integrado no sítio do Liceu, ou no colégio Pierre e Marie Curie, em LEPEC, e a partir da troisième, todos têm vocação a entrar no liceu, no sítio, no edifício, se quiserem.
No chateau.
No edifício do Liceu Internacional, para prosseguir os seus estudos em segundo, primeiro e terminal.
Bom, de maneira que o percurso está balizado, como diria o outro. Ora, as inscrições estão abertas, há que ver, já desde o dia 11 de janeiro, tínhamos falado nisso, aliás, no início de janeiro até o dia 12 de março, com as medidas sanitárias. Com o acolher obrigatório e por aí afora, há uma dificuldade dos pais e vocês e as outras secções estão a sentir isso, porque normalmente nós falamos aqui, fazíamos uma emissão e vocês tinham imediatamente telefonemas, tinham contactos e tudo. A situação está mais difícil, mas os pais podem fazer muita coisa através da internet, através do site do liceu, não?
Sim, portanto, até aqui, nos anos anteriores, até 2019, as pessoas iam presencialmente entregar o dossiê. O ano passado foi necessário fazer tudo por internet, este ano tivemos alguma esperança que fosse possível fazê-lo presencialmente, neste momento sabemos já que não vai ser, não está a ser possível.
Sim, porque não podemos, os pais não têm direito a entrar nas escolas, nos juízes.
Portanto, só a título excepcional é que pessoas do exterior podem entrar. E é este rigor que nos tem ajudado a manter as aulas. Portanto, o liceu não fechou, continua a funcionar, bom, com algumas medidas de adaptação, mas bom, que não vale a pena eu entrar agora aqui em pormenor, mas funciona, aulas em que professores e alunos estão de máscara, mas aulas presenciais, com algumas adaptações para os alunos mais velhos, os do nível liceu. Cada turma fica um dia por semana em casa, tendo aulas à distância, mas só um dia por semana. Eu queria, Artur Silva, se me desse ainda licença, isto antes de dar datas de provas.
Isso aí, relativamente a essas datas, eu penso que é o melhor, os nossos ouvintes, irem diretamente ao site da seccionantinternacional.com ou ainda o site da coordenação epefrance.org, mas enfim, mas qual era?
O que eu queria dizer é, portanto, tudo o que tu acabaste de dizer eu agradeço, mas as pessoas têm mais informação no site da secção portuguesa do Liceu Internacional.
Exato.
Se fizer, portanto, o site do Liceu Internacional e depois secção portuguesa, a informação está mais pormenorizada do que propriamente.
Sim, porque há a referir que é preciso enviar um certo número de documentos que têm que ser pedidos da escola onde os alunos estão.
Bom, a maior parte os pais já têm, porque para além dos documentos de identidade dos alunos e dos pais.
É preciso uma avaliação.
Mas se me desses licença, só mesmo. Portanto, têm que entregar cópia dos boletins de avaliação do ano corrente e dos dois anos anteriores, isso as pessoas já têm, dos anos anteriores, e depois têm que fazer uma prova escrita e uma prova oral de português. Essas provas estamos a trabalhar, ainda não perdemos a esperança de as poder fazer nas datas que estão indicadas e fazê-las presencialmente. Portanto, para já, mantemos a continua a possibilidade aberta. Eu falei com os responsáveis do liceu na quinta-feira passada e continuamos a manter essa possibilidade.
Sim, há datas a 17 de março, ao 24 de março e por aí afora. Ora, uma coisa que eu penso que é importante também falarmos, José Cajanela, é a questão para os jovens não francófonos.
Muito bem. Agradeço que tenhas falado nisso, Artur Silva. Portanto, é assim, os jovens que não falam francês podem pretender inscrever-se. E eles vão integrar uma turma específica que chamam, que os nossos amigos franceses chamam a turma de francês especial, por abreviatura FS. Portanto, esses jovens têm é que os pais não podem estar à espera do fim do ano. Os pais devem manifestar-se
o mais rapidamente possível.
Para, é uma questão de organização, portanto é uma questão de organização interna. Não esperem, mesmo se tiverem, eu fazia aqui um apelo um pouco especial, se tiverem familiares em Portugal, no Brasil ou noutro país de língua portuguesa, que querem que os filhos integrem o duplo ensino, mas que não falam francês, que se manifestem quanto antes, portanto, têm todos os contactos no sítio da secção que o Artur Silva fez o favor de recordar, e eu dava ainda um número de telefone, que é o 01-34-51-53-57. 01-34-51-53-57.
Mas, José Cajanel, as pessoas, automaticamente, foi o que eu fiz, fui ao site do Liceu Internacional São João Mão Lé, fui depois à secção portuguesa.
Sim, senhor.
Está lá tudo dito e mais do que dito. Eu, uma última referência ainda, acho que é importante, José Cajanel, não há carta escolar. Portanto, não obedece a nenhuma zona geográfica de residência, nem seja aqui for.
Precisamente, o liceu, digamos, não há setor.
Não está sectorizado.
Qualquer família resida onde residir pode candidatar o seu filho. Agora, enfim, tem que se redigir a uma distância razoável do liceu, porque senão nenhum jovem pode aguentar em termos de cansaço. Portanto, para quem residir mais longe, ou em Paris, existem, como o Artur Silva fizeste o favor de referir, as secções dos liceus Honoré de Balzac e Michel Montaigne em Paris, e Alexandre Dumas
em Saint-Cloud.
E em Saint-Cloud também, para o nível colégio, mas é a mesma secção, o colégio Émile Verhaeren.
Também tenho dificuldades em dizê-lo. E, não, isto é bastante importante, tanto o apelo que lançamos no que diz respeito, seja mal lá, lembro desde o pré-escolar até a terminal, as inscrições estão abertas até o dia 12 de março. Agora temos um período de duas semanas, será que, bom, vocês estão de férias, há uma permanência telefónica, ou as pessoas podem enviar mails, como é que se passa
muito
isso?
Muito bem, portanto, amanhã, segunda-feira e terça-feira, estamos lá. A parte administrativa está lá, eu também lá vou estar. Depois, as pessoas podem enviar os dossiês de candidatura por mail. Bom, isso vai implicar que nós tenhamos uma pilha, esperamos que maior ainda que nos outros anos.
Daqui a 15 dias.
Daqui a 15 dias, mas as inscrições, portanto, estão até ao dia 12 abertas. E, enfim, para aqueles, isto é para quem reside em França, para quem reside no estrangeiro, estão abertas até ao fim do ano letivo. Mas, volto a insistir, manifestem-se o mais rapidamente possível. Entretanto, como tu, Artur Silva, dizias, e eu gostava ainda de recordar, portanto, há uma prova de português oral e escrita para os candidatos a CISIEM na quarta-feira, 17 de março, para os candidatos à escola primária, CEUAN, CEDU, CEMAN e CEMDU, na quarta-feira, 24 de março, para os candidatos de colégio e seconde e première, na quarta-feira, 7 de abril. Para maternel e CP, são provas individuais, os alunos recebem depois, só estes níveis, maternel e CP, uma convocatória individual.
Há que referir que antes destas orais há uma reunião com as famílias muito importante.
No mesmo momento, enquanto os alunos, desculpa cortar-te a palavra, Artur Silva, no momento em que os alunos estão a fazer a prova, os pais têm uma reunião de informação com o diretor da secção.
Estão a passar uma espécie de exame.
Não,
é uma maneira de falar.
É informação
também, mas é para implicar os pais.
Claro, para porque... se explicar.
Exatamente. Bom, José Cajanel, obrigado. Boas férias, sem ser férias, não é? Porque vocês, professores, eu dou-me conta disso, mas enfim, muita gente não se dá conta, pensam que os professores têm 3 meses ou 4 meses de férias e por aí fora. Mas, bom, como dizem os franceses, c'est en l'air. José Cajanel, obrigadíssimo e até breve então.
Eu é que tenho que agradecer esta oportunidade de falar daquilo que é a difusão da língua portuguesa, da importância que isso tem para um jovem, até para o equilíbrio da sua personalidade. Muito obrigado, Artur Silva. Bom dia, senhores ouvintes da Rádio Alfa.
Obrigadíssimo. E agora vamos à publicidade e depois, bom, vamos mudar de horizonte, é o caso de dizer. E vamos andar a brincar um bocadinho entre o norte de Portugal, entre aqui a Paris e por aí fora, e sobretudo um choque de civilização, não é civilização, João, o que é que a geneira que eu disse agora, um choque talvez de origem e de vivência entre um meio burguês, pequeno burguês aqui em França, e numa aldeia em Portugal perdida, onde havia um rapaz que gostava muito de binóculos e estar a ver. Olhar para o horizonte, isso é outra história. Até já.
la paire. Pour Isabelle, ce qui compte avec une porte d'entrée, c'est qu'elle laisse passer Gribouille. Et pour Pierre, c'est qu'elle ne laisse pas passer le bruit. Ce qui compte, c'est d'être bien chez soi. Et pour ça, vous pouvez compter sur nous. Jusqu'au 22 février chez La Paire, la pose de porte d'entrée aluminium sur mesure est à 1 euro. La Paire, la qualité réservée à tous. Conditions sur lapaire.fr.
Carrefour. Chaque semaine chez Carrefour, découvrez nos produits frais à prix imbattable. Et oui, on s'engage à ce que vous ne trouviez pas moins cher ailleurs. Par exemple, jusqu'à ce soir, chez Carrefour et Carrefour Market, la barquette de pavé de rhum steak 3 étoiles à griller, origine France, est au prix imbattable de 10,80€ le kilo. Et si malgré tout vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse deux fois la différence. C'est ça, un prix imbattable. Carrefour.
Viande bovine française, la caissette de 4 pièces minimum, modalité sur carrefour.fr.
Vous avez un projet de changement de chaudière? Hello Helio, installation, obtention des aides. Avec Helio, vous n'avez rien à gérer et parfois même rien à avancer. Rendez-vous sur helio.com, H-E-2-L-I-O, ou appelez le 3220 et dites Helio. Service gratuit plus prix d'un appel. Conditions d'éligibilité et de ressources sur helio.com.
Tu sais quoi? C'est décidé, je le plaque. Ça fait 5 ans que je le supporte. Mais là, terminé. Trop, c'est trop.
Mais qu'est-ce qui t'a décidé?
Et avec lui, plus aucune liberté. Le shopping, la plage, les amis, j'oublie.
Et pour les enfants?
Ils ont envie d'une maman épanouie, non?
C'est clair.
Aujourd'hui, je dis stop. Je veux retrouver ma vie d'avant. C'est clair et net. Je plaque mon pso et j'en parle au dermato.
Pour le psoriasis, des solutions existent. Parlez-en au dermatologue. Rendez-vous sur c'estclairetnet.fr. AbbVie, en partenariat avec France Psoriasis, le soutien de la Société française de dermatologie et du groupe de recherche sur le psoriasis.
Tout savoir sur l'arrêt du tabac avec Tabac Info Service. Damien était avec nous aujourd'hui. Après 18 ans de tabagisme, il a décidé d'arrêter de fumer pour être plus libre, pour sa santé et surtout pour vivre quelque chose de positif en cette période difficile. Alors, pour mettre toutes les chances de son côté, Damien a décidé de se faire accompagner par son médecin. Il a aussi téléchargé l'appli Tabac Info Service pour s'aider. Et jusque-là, eh bien, ça marche. Alors Damien, merci pour votre témoignage et bravo pour ce défi.
Plus de 8 millions d'histoires ont commencé sur Mythique.
Ça peut paraître bête, hein, mais pour moi, j'ai su qu'on vivait une vraie histoire le jour où t'as posté un selfie de nous deux sur les réseaux.
Si on m'avait dit qu'on ferait le buzz avec cette photo, je l'aurais posté plus tôt.
Vous aussi, commencez une vraie histoire. Téléchargez Mythique et rencontrez des célibataires prêts à s'engager. Plus d'infos sur mythique.fr.
Mythique.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, j'ai des nouvelles.
Des bonnes j'espère.
Ah bah non patron, désolé. Dès demain, les pommes de terre à chair ferme origine France en filet de 2,5 kg sont à 1,79€.
1,79€ le filet de 2,5 kg de pommes de terre.
Ah oui, ça revient à 72 centimes le kilo. Je vous en prends un filet.
T'as plutôt intérêt à filer d'où, hein?
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, calibre 35-55, traitement antigerminatif après récolte, diverses variétés selon arrivage, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Radio Alpha.
But, la queue en brie s'est refait une beauté. Et pour fêter ça, jusqu'à moins 50% sur une sélection de produits. Meubles, électro, images et sons, literie, cuisine et décoration. Sur plus de 6000 mètres carrés, on vous attend. But, la queue en brie, route de Noiseau, RN4, La Croix Saint-Nicolas. Offre valable du 9 février au 8 mars.
But, des prix et des idées tous les jours.
Que passa notícias do meu país e o vento cala a desgraça, o vento nada me diz. Diz. sempre uma candeia dentro da própria desgraça. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa.
Prova do vento que passa, Adriano de Correia de Oliveira. E o tempo passou. António Sousa, bonjour.
Bonjour Arthur, merci de me recevoir et merci à Radio Alpha de me donner la possibilité de m'exprimer.
Alors horizon, mais l'horizon là c'est pas vers l'avant, c'est vers derrière qui ressort, parce que en filigrane il y a le Portugal avant le 25 avril, après le 25 avril l'immigration, le salt, etc. C'est quoi, c'est une espèce de piqûre de rappel de votre jeunesse ou qu'est-ce qui s'est passé?
C'est l'horizon vers l'avenir, parce que le personnage dans le livre veut chercher l'horizon, donc il veut sortir d'une vie qui lui a été imposée par rapport au contexte politique et social de l'époque. C'est un sujet qui n'est pas un sujet du passé. J'ai simplement utilisé mon vécu, puisque j'étais jeune quand la révolution des œillets a eu lieu, et je voulais au travers de mon témoignage et de mes connaissances faire un livre universel. Donc c'est un livre qui n'est pas du passé, qui est un livre contemporain, qui peut parler à tous ceux qui ont une vie qui est tributaire du contexte politique de la dictature, etc. Et donc l'horizon, c'est ce que cherche le personnage. En fait, il cherche à sortir de cet enfermement.
Alors, Tony, c'est un jeune, parce qu'à l'époque, il a 8, 10 ans, quelque chose comme ça, je crois.
Il a 11 ans et il va sur ses 12, mais attention, voilà. Parce qu'il n'aime pas qu'on le traite de gamin.
Ah oui, surtout pas, non, de gamin. Alors, il y a un chemin croisé, bien qu'il ne soit pas croisé. Donc, Tony, qui vit dans un petit village au centre du Portugal, bon, on est dans le milieu rural, sa grand-mère, très important, parce qu'en plus, il a la chance par rapport aux autres gamins, bon, il ne faut pas dire le mot, mais je le dis, c'est qu'il a une totale liberté.
Alors, il a une totale liberté au niveau ses mouvements, mais ce qu'il va découvrir, c'est qu'il n'a pas du tout de liberté. C'est que
on est sous une dictature.
On est sous la dictature. Il ne le sait pas. Il est né sous la dictature. Donc pour lui, c'est la normalité. Il ne connaît pas d'autres pays. Et c'est là où vient également son besoin de partir, parce que il faut dire aussi qu'il vit avec sa grand-mère parce que ses parents ont immigré en France. Et donc pour lui, c'est quelque chose de transitoire. Le monde extérieur, c'est l'Eldorado de la France. Et il a cette liberté parce que sa grand-mère le traite comme un petit roi, parce que il est dans une famille aimante. Mais petit à petit, au travers des amis qu'il a, qui sont beaucoup plus âgés, parce qu'il veut se donner plus de maturité que son âge, il va découvrir qu'il y a autre chose que le monde dans lequel il vit.
Alors, il a fallu attendre le regroupement familial pour que ses parents puissent le faire venir ici. Bon, ça, c'est au Portugal. Il arrive. Bon, entre-temps, il y a Clara. Clara, bon, d'ailleurs, dans le livre, il y a deux secrets. Il y a des secrets, on va pas les révéler. Mais Clara, elle vit seule dans une maison bourgeoise. Son copain, c'est Henri. D'ailleurs, bon, il y a une petite anecdote. Bon, je ne sais pas si on va parler d'elle ou pas. Elle, au contraire, bon, parce qu'il y a eu un drame dans sa vie. Son père a été assassiné. Par qui?
Alors, avant de répondre à ta question, Arthur, je voudrais repositionner quelque chose qui est important, parce que dans ce livre-là, il y a les vies parallèles de Tony au Portugal et Clara en France. Okay. Clara est une exilée politique. Mmh. Et ça, c'est quelque chose que je voulais mettre en avant dans ce livre également, parce que quand j'avais publié mon premier roman, j'avais traité beaucoup du sujet de l'immigration avant tout économique. Et beaucoup de personnes avec qui je l'ai échangé m'ont dit à l'époque, bon bah c'est un livre de plus, c'est original la manière dont tu le traites, c'est très intéressant, etc. Mais il faudrait peut-être aussi dire qu'il y avait une immigration politique d'exil. Et ça, je voulais traiter ce sujet-là parce qu'en fait, c'est pas connu, pas vraiment connu en France, parce que l'immigration économique portugaise en France est une immigration de masse. Fin des années 50, je crois qu'il y avait 20 000 Portugais en France. En 75, et il y en avait 750, 800 000. Donc, les gens ont l'image du Portugais de masse. Mais il y avait quand même des résistants, des antifascistes et des gens qui risquaient leur vie parce que exprimer quelque chose de anti-dictature, c'était risquer la prison et la mort. Et donc j'ai voulu traiter ça, effectivement, dans ce livre-là.
Et d'ailleurs, je m'excuse, mais il y a un dialogue étonnant entre les parents de Tony. Tony, il est là. Alors, Clara. Bon, on finit par savoir son nom de famille. Mensch. Alors, le couple va faire toute une enquête autour, parce qu'il y a les réseaux portugais, ils trouvent rien. Parce que, bon, effectivement, c'est les parents de Clara, ils ont dû fuir le fascisme. Et ça, c'est important de voir ça, parce que, bon... D'un côté, ils se coupaient des Portugais, mais de l'autre côté, c'était pour se défendre, pour se sauvegarder, non?
Oui, oui.
Lapide, parce que Lapide était ici aussi.
Oui, Lapide, donc la police politique portugaise. Il faut rappeler, en fait, il faut rappeler quand même, parce que c'est pas forcément clair pour tout le monde, que la dictature portugaise a duré un demi-siècle. Et c'était une dictature qui était très oppressive. Et qui avait un bras armé qui était Lapide, la police politique, qui avait également des informateurs partout dans le pays, mais non seulement, il y avait également Lapide en France. Et les exilés qui avaient fui le Portugal n'étaient pas forcément à l'abri de Lapide. Et c'est pour ça qu'en fait, dans ce livre-là, je mets ça au niveau de Clara et sa mère va tout faire pour faire croire qu'elle est une immigrée portugaise comme les autres, mais elle a deux problèmes à régler. C'est l'un, c'est de ne pas se faire remarquer pour ne pas se faire repérer par la police politique, et deux, de ne pas trop se joindre à la communauté parce qu'on risque de connaître son passé. Et c'est pour ça qu'effectivement les Portugais, on le sait très bien, on est Portugais de France, on sait très bien que tout le monde connaît tout le monde, que tout le monde se voit au marché, etc. Donc c'est un réseau maintenant avec les réseaux sociaux, etc. C'est une communauté très solidaire et du coup elle passe entre les filets de Lapide et de la communauté à la fois.
Alors c'est intéressant aussi sur le regard de Tony par rapport au 25 avril, parce que c'est un pré-ado encore.
C'est un pré-ado, et justement c'est ça qui était très intéressant à traiter dans ce livre-là, parce que c'est pas un livre historique, c'est un livre qui traite de l'histoire dans le sens où je l'ai vécu, donc je peux en témoigner, et j'ai également fait en sorte que tout soit bien vérifié en termes de chronologie. Mais ce qui était intéressant, c'est que c'est un pré-ado, et à la fois il va commencer à rentrer dans le monde des adultes, et à la fois, il va commencer à comprendre que ce qu'on a essayé de lui mettre dans la tête, c'est pas forcément la vérité. Et ça, c'était très intéressant parce que c'est l'aspect psychologique du personnage où il est dans un pays enfermé, dans un pays où on a supprimé la possibilité de s'exprimer, où il faut être soumis. Et au travers de son évolution en termes d'adolescent et en termes de rencontres, il va découvrir le monde des adultes et le monde de la vérité qui n'était pas celle qu'il pensait être.
Alors, quelque chose de très, très intéressant, bon, moi ça fait des années que je le dis, depuis 1974, mais enfin, c'est Lapide. Alors, qui sont-ils ? Combien sont-ils? Qu'est-ce qu'on a fait avec? Et ça, c'est tout un questionnement qu'il y a aussi dans le livre. C'est quelque chose d'intéressant. Même aujourd'hui, ça reste, bon, je dis pas un énigme, parce que je pense que ça a été fait exprès. Bon, c'est une autre, ça, le sujet d'une autre émission.
Alors, ça, c'est effectivement abordé dans le livre. Il n'y a pas les réponses parce que c'est que des questions.
Oui. bien que, on a des noms. On a des noms. Alors, on a des gens qui ont été récupérés. Comment ça se fait qu'ils ont, ils sont soi-disant fui d'une prison avec la carte d'identité en poche? Ce sont des faits historiques. Et d'ailleurs, qu'on va aborder, on peut le faire tout de suite. Manuel Nechimian, bonjour.
Bonjour.
Alors justement, bon alors, c'est par rapport à ces questions-là qu'on vient d'aborder, je rappelle la révolution des ailes au Portugal, chronologie des combats pacifiques, ça a été édité chez L'Harmattan. Alors par rapport à cette question, parce que il y a plusieurs chapitres dans le livre, le 25 avril et le 26 avril, alors par rapport à cette question des agents de la police politique, etc., etc., qu'est-ce que vous en pensez?
Comment il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, c'est que la nuit du 24 au 25 avril, il y avait un service de député qui se trouvait en France, déjà pour avoir des renseignements. Donc ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne le savent pas, et c'est intéressant de le souligner. Après, le 26 avril, évidemment, il y a eu beaucoup de choses, évidemment, que c'était pas facile pour la gente qui a provoqué le 25 avril, parce que c'était quand même quelque chose de très intéressant. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il y a beaucoup de gens qui disent c'est grâce à Spinola que nous avons eu le 25 avril. Spinola, il était au courant du 25 avril, c'est vrai, il était au courant, mais il était mis à l'écart. C'est pas qu'il était mis à l'écart, il était surveillé par le MFIA, parce que ils avaient peur qu'il soit pas tout à fait d'accord avec la révolution. Mm-hmm. Mais après, évidemment, Caetano, lorsqu'il a quand il est arrivé au Carmo, Caetano, il avait dit je ne donne pas le pouvoir à n'importe qui, donc il faut que ce soit quelqu'un plus haut qu'un capitaine, comme aucun simple capitaine. Et évidemment, il a tout de suite signalé le Spinola. Je vous en ai le pouvoir que Spinola avait. C'était quelque chose que beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est important de le souligner. Moi, je sais que j'ai eu une interview avec Hôtel de Carvalho, et puis on a parlé de beaucoup de choses, on a parlé de ça, et puis il m'a dit, mais Manuel, qu'est-ce qu'on pouvait faire de toute façon? Spinola, on a mis le pouvoir sur un plateau. Moi, je n'avais pas le choix. Soit il fallait donner le pouvoir à la demande de Caetano, ou alors ça aurait été un bon sang. Donc on a préféré quand même donner le pouvoir à Spinola, quoi. Voilà. Donc c'est quelque chose que beaucoup de gens ne le savent pas encore.
Mais maintenant, de chez bientôt, votre livre, c'est une chronologie d'un combat pacifique, mais quand même Lapide a tué 4-5 personnes, non?
Moi, quand je dis pacifique, c'est par rapport à toute la révolution qu'il y a eu, que ce soit au Portugal ou dans d'autres pays. Il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de choses. Et pourquoi c'est commencé mort, 4 à 5 morts lapidés? Parce que pour l'instant, comme lapidés, à l'époque où ils ont tiré, ils se croyaient encore supérieurs à tout le monde. De toute façon, ils ne voulaient pas céder. Il y a eu malheureusement ces 4 à 5 morts. On ne sait pas exactement, il y en a qui disent 4, d'autres 5 et quelques-uns blessés. Alors moi, quand je dis pacifique, comme pacifique, c'est dans le global, dans le 24, dans la nuit 24, dans le 25, le 26, voire le 26 aussi, mais surtout le 24 et 25, c'était quand même assez pacifique. Et puis, ce qu'il faut souligner aussi, c'est que ces 4 à 5 personnes qui ont été tuées, ce n'était pas par l'armée. Donc c'était encore la résistance salazariste, on ne va pas dire salazariste parce que c'était Caetano, mais donc c'était encore la résistance du Stade Novo. Donc ce n'est pas l'armée qui a tué, voilà, c'est pour ça que je dis pacifique, parce que c'est l'armée et le peuple qui étaient là, et l'armée, donc c'est pas l'armée qui a tiré.
Voilà. Bon, et c'est pas pour rien qu'on l'appelle la rue sûre, désolé. Voilà. Manon Nascimento, merci. Donc, j'appelle la révolution des œillets au Portugal, chronologie d'un combat pacifique. Au révolution de Scraves, n'importe quoi, chronologie d'un combat pacifique. Là, matin, il vaut la peine de relembrer l'exposition du 25 d'avril. Enfin, uma boa notícia, Manon Nascimento. Não vamos ter Museu Salazar em Santa Combadão. Aparentemente, houve um voto mesmo do Parlamento com a abstenção do PSD e do PS. Bom, dá para refletir, não?
Dá, como bom. Moi, je ne suis pas contre ces musées-là. Le problème, ce qui s'est passé, c'est que, comme d'après ce que je lis, parce que j'ai beaucoup, enfin, ça m'a beaucoup intéressé, c'est comme cette partie-là. Et comme moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'ils allaient créer un musée, mais c'était pour du laurier à Salazar. Donc, c'était pas pour raconter la vérité. Le musée, il aurait été vient de Salazar. Pour moi, enfin, c'est mon point de vue personnel, évidemment. Autohistorien sait, mais dire, comment la vérité, ce qui s'est passé. Il a quelque chose de bien, mais bon, il a beaucoup de mal, mais bon, il fallait, comment dire, vraiment ce qui s'est passé. Et comment, il y a apparemment, d'après ce que j'ai lu dans la presse, ils ont beaucoup de choses, c'est que c'était, Salazar, c'était le sauveur de Portugal. Et ça, je ne suis pas d'accord parce que ce n'est pas un vrai musée. Donc on ne vit pas la vérité. Voilà.
On peut utiliser. C'est pas pour rien qu'on a quelqu'un d'extrême droite, xénophobe et raciste au Parlement. Mais enfin, ça sera peut-être un prochain bouquin de voir finalement. Pratiquement 50 ans après le 25 avril, voilà que l'extrême droite rentre au Parlement portugais.
C'est quand même la faute au Portugais, quand même, s'il est là.
chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Bon, ça, c'est une autre affaire. Manon Nascimento, merci et à très bientôt.
Très bientôt, merci beaucoup de votre appel. Allez, au revoir. Bonne continuation.
Antonio de Sousa, L'Horizon, roman, édition Mer du Sud. On est pratiquement à la fin, mais il y a quelques pages, il y a un résumé, quelques pages très intéressantes. C'est quand Tony arrive dans le 94, parce qu'en réalité c'est pas pareil, sans mort des fossés, etc., etc. Et c'est, il découvre tout, c'est un monde complètement différent, des mini-jupes, des cheveux courts, etc. Et il dit, sa vie comme des quartiers de prostituées, etc. Ça, c'est très intéressant, ce choc de forme de vie, de société.
Tout à fait. Ce qu'on voit là, c'est quelque chose que j'ai vécu, hein, c'est inspiré de ce que j'avais ressenti à l'époque, donc... Je l'ai mis dans ce livre-là au travers du personnage de Tony. Ce qu'il faut dire par rapport à ce qui vient d'être dit et par rapport au contexte de l'époque, hein, c'est que certains ont tendance effectivement à voir Salazar comme un bon économiste ou comme quelqu'un qui voulait préserver l'Empire. Mais en fait, Salazar n'était plus du tout dans son temps. Et tous les grands hommes, sont dans leur époque. Et lui, il n'était plus dans cette époque-là. Donc en fait, le Portugal a vécu 50 ans figé dans le temps. Et quand Tony arrive en France, c'est presque à la fin de cette période-là. En fait, il va découvrir que son pays est complètement décalé par rapport au monde, parce que c'est pas la France qu'il découvre, c'est pas que Saint-Maur-des-Fossés.
C'est le monde tout court.
C'est le monde tout court. Et ce qu'il voit, c'est que, les femmes ne sont pas soumises, parce que c'est une réalité aussi qu'il faut dire, parce que c'est toujours du folklore qu'on dit les femmes habillées en noir, etc. C'est parce qu'elles étaient imposées à s'habiller ainsi par rapport à la religion. Et donc lui, ce qu'il voit, c'est des femmes libérées après mai 68 en mini-jupe, des hommes qui ont pas de complexe à avoir les cheveux longs, etc. Et donc c'est assez violent en termes de visuel, parce que c'est toute la négation de ce qu'on lui a appris. On lui a appris qu'il fallait vraiment être habillé de telle manière, qu'il fallait penser de telle manière, qu'il fallait pas dire. Et donc c'est là en fait le choc de l'éducation et les 50 ans qui ont été perdus par le Portugal sous la dictature.
Voilà, bon, c'est une bonne leçon de vie, mes amis. Attention, comment c'était avant. Et il faut pas tomber dedans à nouveau, parce que bien que quelqu'un a dit la première fois c'est une tragédie, la deuxième fois c'est une femme. C'est un barbu qui a dit ça. Antonio de Sousa, merci et à très bientôt.
Merci à vous. Merci.
Bom, estamos a chegar às 13 horas e depois iremos falar de música. Heitor de Villa-Lobos e Francisco Lazaro.
SFB, Société Francilienne de Béton, répond à tous vos besoins en béton prêt à l'emploi. Contactez-nous au 01 43 89 53 35.
São 13 horas. Rádio Alfa.
Bonjour à toutes et tous. La procédure pour autoriser les vaccins va être accélérée dans l'Union européenne. Accusée de lenteur dans la gestion de la pandémie, l'Union dit aujourd'hui vouloir aller plus vite pour les prochains vaccins améliorés et qui aideront à lutter contre les variants du coronavirus. Il devrait y avoir moins d'étapes de validation. L'Allemagne a décidé, elle, de restreindre l'accès à ses frontières pour contenir les variants. De son côté, Monaco annonce durcir les conditions d'entrée des Français dès demain dans la principauté. Le vaccin du laboratoire français Sanofi ne sera pas prêt cette année. C'est ce qu'annonce le directeur de Sanofi aujourd'hui dans le journal du dimanche. Il espérait pourtant une demande d'autorisation au dernier trimestre. Paul Hudson affirme cependant que ce vaccin pourrait être utile plus tard pour combattre les différents variants du virus. En France, le nombre de nouvelles contaminations reste stable avec 21 000 nouvelles contaminations en 24 heures d'après Santé publique France. 199 décès supplémentaires. En une semaine, 10 000 nouveaux patients ont été admis à l'hôpital, dont plus d'un millier en réanimation. Les Catalans, appelés aux urnes aujourd'hui pour les élections régionales, ils doivent désigner leurs représentants au sein du Parlement régional en pleine crise sanitaire. Le Parti socialiste à la tête du gouvernement espagnol veut écarter les indépendantistes du pouvoir 3 ans après une tentative de sécession. Fin de la 25e journée de Ligue 1 de football aujourd'hui, avec à l'instant le début de la rencontre Monaco Lorient. Parmi les autres affiches du jour, l'Olympique de Marseille se rendra à Bordeaux, coup d'envoi à 21h. Lille recevra Brest à 17h05. En rugby, le 15 de France affronte l'équipe du Trèfle cet après-midi dans le tournoi des 6 nations. L'Irlande reste invaincue par les Bleus à domicile depuis 2011. Coup d'envoi du match à 16h. Et puis une nouvelle découverte réalisée en Égypte. Pas de sarcophage ou de momie, mais une brasserie de bière vieille de 5000 ans. Il pourrait s'agir de la plus vieille brasserie du monde. Bon après-midi à notre écoute.
Tout savoir sur l'arrêt du tabac avec Tabac Info Service. Pour Mélissa, le premier confinement a été synonyme d'arrêt du tabac. Elle nous a raconté qu'elle fumait depuis l'âge de 20 ans et qu'elle avait déjà plusieurs fois essayé d'arrêter sans succès. Pour elle, c'est la Covid qui a été le déclic. En effet, Mélissa, confinée, ne voulait pas exposer ses enfants à la fumée de cigarettes. Elle a donc diminué sa consommation et elle a appelé le 3989 pour qu'un tabacologue de Tabac Info Service l'accompagne. Résultat, ça fait 8 mois que Mélissa a complètement arrêté de fumer.
Plus de 8 millions d'histoires ont commencé sur Mythique.
J'étais tellement impressionnée la première fois que tu m'as présenté à tes amis.
Tu parles. C'est plutôt eux qui ont été impressionnés par ton assurance.
C'est tout?
Non, et ton incroyable sourire.
Vous aussi, commencez une vraie histoire. Téléchargez Mythique et rencontrez des célibataires prêts à s'engager. Plus d'infos sur mythique.fr.
Mythique. Vous pensiez que c'était impossible qu'on vous recommande une banque. Mais depuis qu'on vous a recommandé Boursorama Banque, vous vous dites que tout est possible. Comme passer à la radio pendant que vous chantez sous la douche. Non, non, stop, ça va pas être possible. Mais au moins, vous savez que c'est possible de recommander sa banque. Chez Boursorama Banque, un client sur deux vient sur les conseils d'un proche. Boursorama Banque, la banque qu'on a envie de recommander. Étude réalisée par Boursorama Banque sur la base des clients ayant ouvert un premier compte bancaire en 2020.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron?
C'est qui? Oui?
Bah c'est qui? Oui, oui, je suis chez Lidl. Et dès demain, ils nous font la barquette d'un kilo de kiwi à 2,39€.
Quoi? La barquette d'un kilo de kiwi à 2,39€?
Ah c'est ça, c'est le vrai prix. Un prix Lidl, tout rikiki quoi.
Oh, on est mal.
Ah bah oui.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 2, variété Eward, origine France. Nos supermarchés sont livrés quotidiennement et vous accueillent en toute sécurité jusqu'à 18h. Profitez des heures creuses pour faire vos courses. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Nous travaillons dans des petites structures de 1, 2, 3, jusqu'à 10 salariés.
Nous sommes presque 4 millions en France.
Mais qui nous représente? Qui nous accompagne? Qui nous défend?
Bah y a l'UNSA. Pour les salariés de très petites structures comme nous, l'UNSA propose toute une gamme de services. Comité d'entreprise, conseil personnalisé, protection juridique.
Ah, d'accord.
Découvrez tout ce que l'UNSA fait pour nous sur monunsa.org.
Moins seul, plus fort avec l'UNSA.
Radio Alpha.
Besoin d'une location d'appartement ?
Avez-vous pensé à la location meublée? Simplifiez-vous la vie et venez simplement avec votre valise. Nous vous proposons de mettre à votre disposition tout le nécessaire pour la location de votre futur appartement, du mobilier, l'électroménager, à la vaisselle de maison, en passant par la télé à écran plat, tout est compris. Profitez d'une situation exceptionnelle au pied du lac de Créteil, à proximité de Commerce et du métro ligne 8. Contactez la société MGI, le professionnel de la location meublée, au 01 45 10 15 03. MGI, une autre vision de la location.
But, la queue en brie s'est refait une beauté. Et pour fêter ça, jusqu'à moins 50% sur une sélection de produits. Meubles, électro, images et sons, literie, cuisine et décoration. Sur plus de 6000 mètres carrés. On vous attend. But, la queue en brie. Route de Noiseau, RN4, La Croix Saint-Nicolas. Offre valable du 9 février au 8 mars.
But, des prix et des idées tous les jours.
Passagem de nível. O encontro semanal de informação da Rádio Alfa. Aos domingos, entre as 12 horas e as 13 horas e 30. Apresentação e coordenação, Artur Silva.
Voyage dans la musique, en passant par le Brésil également, Heitor Villa-Lobos Works for the Wind Instruments, opus numéro 1, concert impromptu. Et avant tout, Violaine Diefez, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est Heitor Villa-Lobos, c'est votre héros?
Exactement.
Du quintet? Bon, il faut dire que c'est un quintet avant, bon, que soit précisé. Pourquoi un héros?
Alors, un héros, alors c'est peut-être un mot un petit peu galvaudé, mais dans le sens où c'est une personnalité qui depuis 30 ans, influence et inspire le concert impromptu par sa personnalité généreuse, opulente, et puis son parcours visionnaire déjà dans le XXe siècle. Mmh. Donc voilà, un héros, car il avait d'audace. Il avait de l'inventivité et donc le concert impromptu se reconnaît et aime bien mettre Villa-Lobos en figure de proue de ses programmes.
Alors, je vais citer, il incarne le souffle d'une liberté jalouse d'elle-même et qui ne sacrifie rien à l'académisme. Je rajoute un truc, un pied dans l'académie et vous êtes déformé.
Exactement.
Ça veut tout dire, ça.
Ça veut tout dire, parce que ben, Villa-Lobos a appris très jeune le violoncelle, la clarinette, avant le décès de son papa, qui est mort quand il avait 12 ans. Et puis après, il a découvert un petit peu la liberté, parce qu'il avait un peu une éducation autoritaire, un petit peu dure. Et donc, il s'est un petit peu émancipé après la mort de son papa. Il a appris la guitare, qui est son instrument de prédilection, contre le gré de sa maman.
Mmh. En cachette,
totalement. Mmh. Et il était passionné par la musique de rue, par les musiques indigènes. Donc il est parti de nombreuses fois dans le Nord-Est, dans des tribus pour apprendre la musique, et puis différemment.
Mmh. Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire avec lui, c'était l'improvisation.
Exactement. Mmh. C'était un grand improvisateur à la guitare, notamment les guitaristes leur doivent un répertoire très 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 dense. Et c'est vrai que c'était quelqu'un qui aimait particulièrement l'improvisation. Et dans ce CD opus 1 que nous avons enregistré, nous avons aussi voulu lui rendre un hommage particulier en mixant donc ses œuvres original pour instrument avant, et en les joignant avec des improvisations, avec des petits apos qui viennent du Brésil, qui sont des petits sifflets qui représentent des oiseaux tropicaux.
Mmh. Vous pensez, je pense, à Subiu Jato, entre autres.
Exactement, à Subiu Jato, c'est une version que Jean-Michel Bossini a imaginée pour le quintet avant. Et donc c'est vrai que cet oiseau siffleur représente vraiment la liberté, la joie, la complexité aussi que peut avoir aussi la musique. Et donc toutes ces ambiances aussi liées à la nature, car aussi ben, la flûte traversière, le hautbois, la clarinette, le basson ou le cor sont des instruments un peu primitifs dans le sens où ils ont été inspirés par la nature et pour la nature. Donc c'est vrai que Villa-Lobos qui est un compositeur génial qui s'inspire aussi, qui dit je veux vraiment qu'on sente l'odeur du bois au début de mon quintet avant. Ce sont des choses qui nous parlent directement.
Alors, il a été assez connu, mais je pense que son voyage en France, parce qu'il est venu en 1923, il a fait un séjour à l'époque, je pense qu'il a été soutenu par le gouvernement brésilien. Exactement. Là, il y a tout un tas de rencontres, ça vaut la peine de rappeler certain nombre de grands noms, non pas seulement de la musique, mais de la peinture, etc., qu'il a côtoyé ici.
Exactement, Villa-Lobos, en fait, est venu en Europe par le biais d'un ami, d'Artun Rubinstein, qui est devenu un de ses amis, qu'il a rencontré au Brésil. Et c'est vrai qu'il a lié un rapport à la France, une relation avec la France très particulière, parce qu'il était donc soutenu par le gouvernement brésilien. Il avait une bourse d'artiste pour venir en France se perfectionner, mais aussi développer sa musique, qui était une musique même très 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 complexe, avec un contrepoint très inventif et puis très très dense. Donc il est venu à Paris, il habitait Place Saint-Michel, et en fait il a rencontré toute l'avant-garde française, Cocteau, il a rencontré aussi Edgar Varèse, on le voit souvent représenté à ses côtés, et il a vraiment côtoyé les plus grands poètes, les plus grands artistes du XXe siècle. Il a rencontré Picasso, il a rencontré énormément d'artistes, ce qui fait qu'il a participé quelque part dans les années 20-30 au fleurant des courants artistiques français. Donc il a dû forcément entendre cette musique-là, il a dû créer aussi pour les instrumentistes de l'Opéra de Paris, il a créé son trio qui a été joué, il a eu des influences de Stravinsky qu'on peut aussi retrouver dans le trio d'Anche, qui sont très très probantes, la question du rythme, la question de la mélodie, la question de la percussion, et également dans la Barcianas numéro 6, donc il rend hommage à Bach, et donc c'est vrai qu'à Paris, il se retrouvait au centre du monde culturel de l'époque.
Et surtout un monde de l'avant-garde intellectuelle à tous les points de vue. Alors, quelque chose d'intéressant, c'est que, lui, il a fait tout un travail, à partir de 1930, je crois, un truc comme ça. Il s'est engagé dans l'éducation et la pédagogie musicale au Brésil. Donc, c'est quelqu'un, qui était, je sais pas s'il était, vous pouvez appeler de musique élitiste, mais il était près du peuple, près des gens.
Totalement. Il était très soucieux, je pense, de ses relations aux autres. C'était un bonhomme qui était tout le temps, qui représentait souvent avec un cigare à la bouche, les bras ouverts. Il avait une bonhomie naturelle qui faisait qu'il était très charismatique, très généreux. Et c'est vrai que les gens l'aimaient beaucoup. Il a œuvré au Brésil pour la pédagogie, comme vous disiez, notamment pour le piano, mais aussi pour l'éducation musicale de son pays. Mmh. C'est-à-dire que même en France, il a toujours eu cette idée de rentrer au Brésil pour que la culture brésilienne puisse aussi s'épanouir et développer plein d'écoles musicales. Mmh. À ce titre, il a créé un conservatoire dont il a été directeur. Il a aussi créé des œuvres, des chorales immenses. Il a fait chanter des enfants dans des stades, des milliers d'enfants dans des stades. C'était quelque chose vraiment d'incroyable.
Mmh. Alors, il voyait le Brésil en mille couleurs, en quelque sorte.
Totalement. Pour lui, sa musique, c'est un peu un syncrétisme de ce Brésil multiculturel. C'est vrai que quand on va à Bahia, il y a plein de couleurs de mots de couleurs différents pour représenter le noir, parce que le métissage est tel qu'il y a différents types de couleurs de peau qui ont un nom à part entière. Donc pour lui, c'était très important de montrer dans sa musique la diversité de sa culture qui fait son identité.
Alors dans ce CD, bon, je rappelle le label Corialan. Alors il y a quelque chose que j'aime bien mieux, c'est Bekianes, parce que Heitor Villa-Lobos, apparemment il s'est inspiré ou il adorait Bach.
Il adorait Bach, il a voulu lui rendre hommage. C'est vrai que dans cette Bekianes, on peut reconnaître ce mouvement très fluide de la musique de Bach, très organisé, très qui coule, voilà, parce que c'est vrai que Bach, Bach en allemand, il y a quelque chose de, et c'est vraiment Villa-Lobos qui a inventé ce mot Bachianas pour rendre un hommage au maître architectural de la musique.
Alors revenons un petit peu au concert impromptu. 1991, oh là, ça fait 30 ans.
Exactement, c'est un ensemble qui a 30 ans, qui a été créé par le flûtiste qui s'appelle Yves Charpentier. Et donc, je viens de reprendre la direction artistique de cet ensemble. C'est un ensemble qui est très novateur, très visionnaire dans sa manière de faire la musique, qui propose donc des concerts, des récitals par cœur, debout, avec un petit peu d'improvisation, de l'adresse publique. Nous faisons aussi beaucoup de spectacles transdisciplinaires que l'on appelle cross-opéra. Et le concert impromptu est allé au Brésil en 2015 et pour une petite tournée avec justement le pianiste Bruno Beltoise. Et nous avons parcouru l'état de Vitória pour rencontrer aussi les enfants. Et c'est vrai que comme on avait joué Villa-Lobos, on a pu se donner une idée un peu plus précise en palpant l'atmosphère, en étant en contact des gens. Je trouve que ça donne une meilleure compréhension de la musique de ce compositeur.
Et d'ailleurs, Bruno Beltoise, on va l'avoir dans 5 minutes. Alors, j'ai découvert quelque chose, l'existence de l'École française des vents.
Oui, alors il y a un grand... ça peut paraître un petit peu anecdotique, mais ça ne l'est pas tant. Et il y a une grande relation entre le langage, la manière de dire les mots et la manière de produire la musique. C'est-à-dire que l'École française des vents est très réputée dans le monde entier, notamment, vous devez connaître Rampal, le grand flûtiste.
Tout à fait,
aux États-Unis, qui a enregistré plus de 400 CD dans le siècle dernier. Et bien, c'est aussi dû à l'apprentissage de la langue française, parce que on a une manière d'articuler les mots, d'utiliser la langue physique, qui est très précise et qui permet, en tant qu'instrumentiste avant, qui permet de souligner l'articulation d'une certaine manière. Et c'est vrai que dans la musique française, on dit que la musique française est légère, et elle permet de mettre en relief tous les détails, en fait, de détacher, de legato.
Alors, il faut rappeler que vous êtes instrumentiste au bois et corps anglais. Alors j'aimerais bien aussi savoir qu'est-ce que c'est le cross-opéra. Parce que, bon, apparemment, c'est une invention du concert impromptu. C'est quoi le cross-opéra?
Ah, c'est une bonne question.
Mais oui.
Le cross-opéra, c'est un genre que nous avons inventé qui met le musicien en tant qu'interprète créatif sur la scène. Je m'explique. C'est-à-dire que le musicien classique ordinaire, on a l'habitude de le voir derrière un pupitre, derrière une chaise, sur une chaise, et jouer son œuvre de manière classique et parfois même sans présenter ce qu'il joue. Donc nous avons décidé il y a 30 ans, l'ensemble a décidé de dire déjà on enlève les pupitres, on joue par cœur. Donc il y a une adresse au public et il y a un rapport aussi, une relation à la musique qui devient beaucoup plus intuitive et se rapproche aussi peut-être plus de l'improvisation, de ce sentiment d'improvisation. Et puis au fur et à mesure de l'histoire de l'ensemble, l'ensemble a été toujours très proche des poètes, des danseurs, des chorégraphes. Est né le cross-opéra, c'est-à-dire que les musiciens ont décidé de créer des spectacles où eux-mêmes apprennent tout par cœur, chantent, dansent, se mettent en scène, collaborent avec des plasticiens pour créer des décors, une scénographie de la scène particulière. Et ce cross opéra, c'est aujourd'hui un petit peu la marque de fabrique du concert impromptu, dans le sens où, où on crée nous-mêmes nos spectacles et on défend une idée de la création contemporaine.
Voilà, parce que ça mélange la scène où on croise le geste, la parole, la poésie, sans oublier la musique. Alors, et à propos de ce disque, justement, vous avez compté aussi avec la collaboration de Bruno Berthoise, c'est concerne la direction artistique. Bruno Berthoise, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour, Arthur.
Ah ben, vous êtes en ligne avec Violaine.
Bonjour, ben, j'en suis absolument ravi. Bonjour, Violaine.
Alors, Heitor Villa-Lobos, Violaine m'a parlé tout à l'heure parce que vous êtes allé au Brésil et participer justement à un certain nombre de concerts. Racontez-nous ça.
Oui, ben, en fait, c'était une tournée organisée par Concertos Internacionais qui sont basés à Vitória, effectivement, dans le Espírito Santo. Et donc, cette tournée nous a emmenés dans des villes plus dans l'intérieur de l'État. Et c'est vrai, comme l'a mentionné Violaine, on a rencontré beaucoup de jeunes qui se sont déplacés des lycées de l'État pour venir dans différentes villes, comme Casuí, par exemple, pour nous rejoindre et passer ce concert avec nous. C'était une ambiance formidable parce que les jeunes sont extrêmement avides de rencontrer ce qui est pas habituel pour eux, des nouveaux artistes. Et on a eu des échanges très, très agréables et très dynamiques à la fin de chaque concert. Donc, notre programme tournait principalement autour d'œuvres qui étaient des œuvres du grand répertoire, hein, Schumann, Beethoven, mais on a aussi joué de la musique brésilienne, comme Hermeto Pascoal, et ça a fait un très grand succès à chaque fois, parce que c'est vrai qu'on avait envie aussi d'aborder la musique brésilienne. Les impromptus, le concert impromptu avait déjà au répertoire pas mal de pièces de Villa-Lobos, mais là, on s'est joint quintette avant et piano. Mm-hmm. Ça forme un peu un petit ensemble, comme un petit orchestre. Donc voilà, puis il y a eu un concert aussi très intéressant à Bahia, à Salvador de Bahia. C'est vraiment une tournée très agréable.
Donc, ça veut dire que, bon, quand on parle de musique dite sérieuse, entre guillemets, musique contemporaine, musique encore expérimentale, etc., qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à ça, Violaine Dufesse? Finalement, la musique, ça, c'est un tout, non?
Bien sûr, la musique, c'est surtout de l'expression vivante, d'une personne à une autre. Et c'est vrai que la création contemporaine fait peur. Mais Villa-Lobos, notamment, est un compositeur très actuel, car cette musique-là, si vous avez écouté le CD, vous pouvez vous rendre compte que oui, il y a une certaine complexité, il y a un langage très élaboré et très travaillé, mais il faut vraiment l'expérimenter en vrai. Et la question de la création est très importante, car elle remet en jeu le fait même d'être interprète et de produire de la musique.
Et bon, et à ce propos, Bruno Berthoise, parlons-en de Francisco Lacerda. 36 histoires pour amuser les enfants d'un artiste. On va écouter un petit extrait, justement, de Francisco Lacerda. C'est la chanson des pingouins. On va écouter un petit extrait. Il s'agit d'un enregistrement qui date déjà de 1997, édition Coriolan Invective Art Music. Alors, c'est très important parce que ce CD-là, ce thème-là, c'est votre premier album, Bruno Berthoise, consacré à un compositeur de portugais. Depuis, il y a eu énormément, mais 1997, ça marque une date dans votre carrière, je crois.
Oui, ça marque vraiment un moment important parce que je commençais déjà à fréquenter le Portugal, les artistes portugais, les compositeurs depuis quelques années, et finalement je me suis vraiment cristallisé autour de cette personnalité incroyable de Francisco Lacerda, qui était à la fois très francophile puisqu'il a dirigé beaucoup d'orchestres en tant que chef d'orchestre en Suisse et en France, et puis son aspect compositeur d'origine des Açores, qui était très poétique, très moderniste en même temps, avec un langage qui pourrait nous rappeler celui de Claude Debussy, celui d'Éric Satie. Et puis finalement, ces fameuses 36 histoires, qui sont des pièces courtes, tout à fait incroyables parce qu'elles ont un côté assez énigmatique et en même temps elles sont un peu comme des autoportraits. Il aborde des facettes de finalement des caractères presque humains à travers des personnages d'animaux. Et ces pièces m'ont accompagné pendant quelques années et j'ai décidé de consacrer un album complet à la Cerda. Ça n'avait jamais été fait, donc j'ai travaillé avec le musicologue assoréen qui connaissait le mieux la Cerda, José Manuel Betancourt da Câmara. Et finalement, ça a donné naissance à cette première aventure dont j'étais vraiment ravi. Le concert aux Açores, lancement du disque dans plusieurs îles, et puis après, l'aventure a continué. Mais j'aime particulièrement la Cerda parce que c'est un musicien, un artiste hors norme qui n'a pas produit énormément de musique, mais qui a été essentiel pour le modernisme et le nationalisme au Portugal.
Voilà, maintenant, ce reste à faire, c'est un auteur qui fasse un texte là-dessus, qui essaie de faire, pourquoi pas, des petits sketchs de théâtre, mais moi, j'ai pas toujours rêvé. Merci d'être intervenu. J'aimerais bien savoir comment est-ce que vous vivez plus de concerts, les salles sont fermées, les musiciens, bon, ils sont priés de jouer chez eux. Comment est-ce que vous voyez la situation? Je commence par Violaine Dufesse, difficilement, je crois.
Écoutez, oui, la situation est difficile. On essaye de s'adapter. Après, le concert impromptu a beaucoup de ressources. Depuis toujours, il a essayé de pallier à tout contexte, toute situation. Donc voilà, on essaye de se développer autrement et de rester au contact de nos partenaires, de rester au contact des musiciens, de rester au contact.
Voilà, c'est pas évident. Alors, Bruno Bertoise, il y avait tout un tas de choses qui étaient prévues au Portugal, c'est fini aussi?
Oui, ça a été ajourné. Enfin, j'ai de nouvelles dates. Parce que effectivement, notamment des enregistrements, ils concernent en direct pour Antena Deutsch, qui sont replacés au 23-24 mars, mais j'espère que la situation permettra de le faire. En général, les organisateurs essayent de... Bon, quand on garde le contact avec eux, comme le dit très bien Violaine Dufesse, on arrive à reporter et à trouver des solutions annexes. Bon, masterclass en avril, concerto avec piano pour le conservatoire d'Aveiro, et puis également enregistrement en principe à Lisbonne en trio fin juillet. Et tout ça, ce sont des choses qu'on espère pouvoir réaliser. Mais c'est vrai qu'il faut tenir le coup. Il faut rester vivant, imaginer des manières de communiquer, imaginer un travail personnel suivi, surtout pas se laisser déborder par la situation, parce que sinon, je pense qu'il faut que moralement les choses tiennent, et comme j'ai toujours eu toujours plein de projets superposés, j'ai toujours quand même une manière d'atterrir différente, donc je suis content de... Finalement, c'est là où on voit que s'ouvrir à beaucoup de projets différents... fait que l'artiste, l'interprète, le musicien, le comédien peut développer une des particularités de son travail plus facilement que si on reste dans une seule catégorie de travail. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer, mais ça veut dire qu'il faut de toute façon s'ouvrir le plus possible. Et les projets d'enregistrement, le concert impromptu par exemple, en a d'autres, hein, avec le volume 2 qu'ils vont consacrer l'année prochaine à Villa-Lobos encore. Et donc, c'est aussi des objectifs de travail. Si je peux me permettre d'ajouter une petite note à ce que Violaine a dit, elle a magnifiquement parlé de tout ce qu'était la personnalité de Villa-Lobos. J'aimerais qu'on n'oublie pas que le Brésil vient du Portugal, et c'est justement l'une des pierres qui va être importante dans le prochain disque qu'ils vont consacrer à Villa-Lobos.
Totalement, oui.
Voilà, c'est qu'ils vont enregistrer la grande œuvre de Lopes Graça qui s'appelle O Túmulo de Villa-Lobos, le tombeau de Villa-Lobos, qui est une œuvre pour quintette avant et qui fera un contrepoint portugais à la personnalité de ce grand Brésilien.
Voilà, on l'attend. Déjà, je rappelle, le concert impromptu. Heitor Villa-Lobos, label Coriolan. Merci Violaine Dufesse, merci Bruno Bertoise. Bon vent, c'est le cas de le dire. Bon.
Merci
Arthur. Merci, à très bientôt. Et estamos a chegar ao final da emissão e obrigado ao Manuel Alexandre, obrigado igualmente aos convidados que estiveram aqui nos estúdios e para terminar, porque não? Bom, Juventude, um cheirinho. Francisco Vinhais, ele aí vem com Juventude em petit clan daí, nem mais nem menos. Thank you.
preciso avisar toda a gente, dar notícia, informar, prevenir, que por cada flor estrangulada há milhões de sementes a florir. Que por cada flor estrangulada há milhões de sementes a florir. É preciso avisar toda a gente, segredar a palavra e a senha, engrossando a verdade corrente de uma força que nada detenha. Engrossando a verdade corrente de uma força que nada detenha. É preciso avisar toda a gente que há fogo no meio da floresta e que os mortos apontam em frente o caminho da esperança que resta. E que os mortos apontam em frente o caminho da esperança que resta. É preciso avisar toda a gente, transmitindo este morse de dores. É preciso, imperioso e urgente, mais flores, mais flores, mais flores. É preciso, imperioso e urgente.
Passagem de nível. O encontro semanal de informação da Rádio Alfa. Aos domingos, entre as 12 horas e as 13 horas e 30. Apresentação e coordenação, Artur Silva.